Bonjour Gilles Boyer.
Bonjour à tous.
Nathalie Loiseau, qui conduit la liste Renaissance aux européennes, sur laquelle vous figurez donc en 12e position, a annoncé qu'elle suspendait la campagne électorale jusqu'à nouvel ordre après l'incendie de Notre-Dame de Paris. Est-ce que ça signifie que ça n'est pas le candidat aux européennes que je reçois ce matin, ou que vous avez pris la liberté de poursuivre votre campagne?
Ne me reprochez pas d'avoir confirmé ma participation à votre aimable
invitation. Ça n'est pas le sens de ma question.
Non, pas du tout. Et on va sans doute d'ailleurs parler essentiellement d'autre chose. Nathalie Loiseau a en effet pris cette décision tout à fait logique, eu égard à l'émotion nationale générale qui s'est emparée du pays et bien au-delà du pays, dans le monde entier, suite au tragique incendie de la cathédrale. Et donc évidemment, la campagne et la vie politique reprendront leurs droits dans un délai qui sera estimé par chacun, eu égard à l'actualité, eu égard à l'évolution des événements.
Qu'est-ce que révèle, selon vous, cette profonde émotion suscitée par l'incendie de la cathédrale de Paris?
Dans Notre-Dame de Paris, ce qui frappe, c'est le mot nôtre, c'est-à-dire ce sont des rares moments d'unanimité nationale dans une période où ces moments-là sont rares. C'est évidemment un symbole majeur et c'est aussi probablement, ça fait partie de ces monuments qu'on ne regarde plus, sauf quand ils sont tout d'un coup en péril. Je ne sais pas, vous êtes parisien comme moi, on passe souvent devant Notre-Dame de Paris, est-ce qu'on y prête à chaque fois attention? C'est pas certain. Il y a une émotion générale qui va bien au-delà de la communauté catholique, qui est particulièrement, je crois, émue et touchée. Et ce qui m'a frappé, c'est que ça a transcendé les courants politiques, évidemment, ça a transcendé les générations et ça a transcendé les frontières, puisque j'ai compris que dans le monde entier, sur tous les continents, l'émotion était extrêmement intense.
La vie politique est donc dans une sorte de parenthèse après cet événement.
Oui.
Le président de la République a reporté sine die l'allocution qu'il devait tenir lundi soir et la conférence de presse qui était prévue aujourd'hui et qui devait marquer la conclusion du grand débat national. Combien de temps peut ou combien de temps doit durer cette pause, selon vous?
Oh, c'est lui qui en jugera. Hier soir, il a en France ici trouvé les mots, je crois, pour parler et répondre à cette émotion générale. Il a voulu, et c'était bien légitime, aborder ce sujet indépendamment de toute passion et de tout contexte politique. Comme je vous le disais, la vie politique reprendra bientôt ses droits, mais je ne sais pas quand, c'est à lui d'en juger. Il a dit dans les prochains jours qu'il annoncerait les mesures qu'il entendait prendre suite au grand débat national. Donc attendons. Pour l'instant, il l'a dit lui-même, c'est le temps du deuil, car c'est un deuil, le temps de la reconstruction et de la cohésion nationale qui doit primer.
Le président de la République, vous y faisiez allusion, s'est donc exprimé hier soir, en effet, mais pour parler en principe uniquement de Notre-Dame, dont il veut que la restauration soit achevée en 5 ans, ce qui d'ailleurs pose un certain nombre de questions de l'avis de nombreux spécialistes. Je disais en principe pour parler seulement de Notre-Dame, parce que beaucoup ont vu dans certains de ses propos aussi une allusion ou des allusions à la situation sociale. Par exemple, quand il dit « nous avons tant à reconstruire ». Est-ce que vous aussi, vous avez l'impression que ce discours était en quelque sorte un peu à double détente?
Ah, il est tout à fait clair que on peut utiliser la métaphore de cette cathédrale en flammes pour dire que notre pays fait face à de gros à des chantiers particulièrement importants. On l'a vu depuis plusieurs mois, la crise des gilets jaunes a révélé des fractures qui sont profondes, une fracture sociale évidemment, une fracture probablement fiscale et une fracture territoriale à laquelle le président de la République va répondre dans les prochains jours. Donc évidemment, dire qu'en France il n'y a rien à reconstruire, ce serait un déni de réalité. Je comprends tout à fait qu'il ait utilisé cette métaphore.
Alors on ne sait pas donc à quel moment précis le président de la République va s'exprimer sur cette issue du grand débat, mais les mesures qu'il devait annoncer lundi soir sont désormais à peu près connues. On a d'ailleurs senti hier que ça l'irritait un petit peu, il y a fait allusion lorsqu'il a parlé d'une espèce de fausse impatience. Alors il serait question de la réindexation sur l'inflation des retraites d'au moins 2000 euros, de la baisse de l'impôt sur le revenu pour les classes moyennes, de la garantie de l'État sur les pensions alimentaires, de la suppression suppression de l'ENA, ce qui serait un peu la surprise, et peut-être d'un référendum d'initiative citoyenne, mais seulement sur des questions locales. Deux questions se posent. D'une part, est-ce que, si ces mesures sont bien les bonnes, est-ce qu'elles vont suffire à répondre à la crise sociale ? Et d'autre part, elle est assez traditionnelle, mais comment on finance tout ça ?
Alors j'ai entendu tout ça, je ne l'ai pas entendu de la bouche du président de la République.
Ça, donc, en effet, personne.
En effet, personne, mais ce n'est pas un détail, si vous voulez, hein, parce que je crois qu'il a rappelé hier soir qu'il annoncerait lui-même les décisions qu'il a prises en réponse à la crise que nous connaissons depuis maintenant plusieurs mois. Et je ne veux pas prendre pour argent comptant les rumeurs de presse, même si elles sont concordantes, qui ont été diffusées depuis. Donc si vous me permettez, on peut attendre les annonces. Dans ce qui sort dans la presse, qui n'a pas été confirmée par l'Élysée ni par le gouvernement, il y a des choses qui me semblent incontestablement de nature à répondre aux préoccupations des Français. Les gilets jaunes, bien sûr, dont je rappelle qu'ils sont... certes très mobilisés, mais peu nombreux et probablement pas représentatifs de l'opinion française dans son ensemble, il faut quand même le rappeler.
Bien qu'ils aient été longtemps soutenus très majoritairement par les Français.
Oui, c'est tout à fait vrai, je crois que ce soutien diminue, et moi je veux aussi m'adresser aux Français qui n'ont pas manifesté, qui ont envie de travailler, de circuler librement, qui travaillent eux-mêmes beaucoup, et qui ont vu, d'une certaine manière, ce mouvement prétendre les représenter. Je crois qu'il y a énormément de Français qui ne se sentent pas représentés par ce mouvement, qui ont pu avoir de la sympathie pour lui, qui ont été depuis extrêmement déconcertés par la dérive violente d'un certain nombre d'entre eux, et qui aujourd'hui aspirent à retrouver de l'ordre, de la tranquillité, et bien sûr, et c'est la préoccupation du président de la République, de la justice.
Est-ce que, selon vous, l'Union européenne peut être une partie de la réponse à la crise sociale en France ?
L'Union européenne est aujourd'hui probablement une réponse aux grands défis que nous devrons affronter dans les années, dans les décennies qui viennent, que ce soit le défi climatique, qui est aujourd'hui une des premières préoccupations des Français, que ce soit le défi de la gestion des flux migratoires, qui n'est pas derrière nous, que ce soit le défi de la révolution numérique, qui impacte le marché du travail en France et qui impacte tous les secteurs de la vie sociale. Et sur tous ces grands défis, nos adversaires sont en dehors d'Europe et nos alliés sont en Europe. Et espérer les aborder et les vaincre, les relever seuls, est une vue de l'esprit. Et donc c'est précisément aujourd'hui où l'Europe n'a jamais été aussi menacée, à la fois de l'extérieur et de l'intérieur, par des forces politiques qui se disent nationalistes. C'est aujourd'hui que sur ces grands sujets, la réponse doit être européenne.
Mais comment vous expliquez alors que dans le discours d'un certain nombre de gilets jaunes, par exemple, mais aussi de responsables politiques en France, il y a l'idée inverse, c'est-à-dire que l'Europe n'est pas la solution, mais quel est le problème ?
Depuis que je suis en âge de suivre le débat public, la vie politique, ça fait maintenant un certain nombre d'années, je n'entends dire que du mal de l'Europe. J'ai entendu très peu de personnalités politiques rappeler les bienfaits de l'Union européenne, l'euro, Erasmus, la politique agricole commune, et énormément d'autres avantages que l'appartenance à l'Union européenne nous procure. Les Britanniques sont en train de se rendre compte de ce qu'ils vont perdre. Et donc évidemment, c'est installé l'idée dans l'opinion publique, et la classe politique française en porte une part de responsabilité maintenant depuis 30 ans, c'est installé l'idée que appartenir à l'Union, ça ne sert à rien. Je veux m'inscrire en faux contre cette idée, et ça prendra le temps qu'il faut, mais nous sommes tous convaincus sur notre liste Renaissance que c'est par là qu'il faut commencer.
Merci Gilles Boyer, bonne journée.
Merci à vous.